écoutez RFI, il est midi en temps universel, 14h ici à Paris.
RFI midi.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans RFI midi week-end, 30 minutes consacrées à l'information internationale.
Victor Moria.
Et on commence avec le journal. L'Iran frappé cette nuit par Israël, des dégâts limités, explique le régime iranien. Tel Aviv, de son côté, avertit déjà qu'elle ne tolérera pas une éventuelle riposte. Une escalade continue depuis 8 mois qui reste encore loin d'une guerre totale. C'est ce que nous dira Théo Renaudon du service international de RFI. Et puis, jour d'élection en Géorgie, Europe ou Russie, le scrutin déterminera vers quelle puissance se tournera ce petit État caucasien. Enfin, la note de la France sous perspective négative selon les agences de notation. Quelles conséquences sur les débats du budget actuellement en cours à l'Assemblée.
RFI midi.
Après le journal, notre rendez-vous des sports, Victor Messistrano nous parlera de football et d'un week-end de derby qui s'annonce avec notamment Real Madrid-Barcelone ce soir. Et puis l'invité d'RFI Midi, ce sera le chercheur Jean-François Corti, président de Médecins du Monde. Nous reviendrons avec lui sur la situation humanitaire catastrophique en cours à Gaza. Deux morts, des militaires dans les frappes israéliennes sur Téhéran hier soir. L'État hébreu a lancé son offensive attendue contre l'Iran en réponse aux salves de missiles du 1er octobre. Selon l'armée, Israël n'a touché que des cibles militaires, notamment des sites de fabrication de missiles. Aucune infrastructure énergétique ou nucléaire n'a été bombardée. Tel Aviv avertit déjà que l'Iran paiera le prix d'une éventuelle escalade. En Israël, on espère ainsi mettre fin au cycle attaque-riposte avec Téhéran. Michel Paul, RFI à Jérusalem.
Une opération combinée qui impliquait des dizaines d'avions de l'armée de l'air israélienne, des ravitailleurs et des avions espions à 1600 km de leur base. Pour Israël, la riposte est terminée. L'Iran commettrait une grave erreur en provoquant une nouvelle escalade. C'est la mise en garde de l'amiral Daniel Hagari, le porte-parole de l'armée israélienne.
Nous sommes prêts à contrer toute attaque en provenance d'Iran et de ses alliés. Nous sommes capables de frapper exactement là où nous le voulons. C'est une capacité très importante et également un message régional que nos ennemis comprennent parfaitement.
Plus de 20 sites différents ont été ciblés. Selon des experts israéliens, dans un premier temps, des systèmes de défense aérienne ont été neutralisés et puis des fabriques de missiles et de drones ont été visées. En Israël, on souligne qu'à la demande expresse des États-Unis, avec qui l'attaque a été soigneusement coordonnée, aucune frappe n'a été dirigée contre des sites nucléaires ou pétroliers. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Et l'Iran a le droit de se défendre, prévient le ministère des Affaires étrangères de la République islamique. Bonjour Théo Renaudon.
Bonjour.
Théo, jusqu'à cette année, le conflit était un conflit par procuration. Israël affrontait en fait des groupes pro-Iran, comme le Hamas ou le Hezbollah. Mais depuis 8 mois, le conflit a pris une autre dimension.
Oui, tout commence le 1er avril. Un bombardement israélien frappe l'ambassade d'Iran à Damas, en Syrie. Première fois qu'Israël frappe non pas un groupe pro-iranien, mais un bâtiment iranien. Téhéran se voit alors obligé de lui répondre. 15 jours plus tard, l'Iran lance 300 drones suicides vers Israël, mais tente quand même d'éviter l'escalade et prévient les États-Unis. Les drones lancés sont très très lents. Ils mettent plusieurs heures à atteindre leur cible. Quasiment tous sont abattus avant même d'atteindre Israël. Israël, qui riposte, bombarde l'Iran sur une base militaire et ne revendique pas l'attaque. En juillet dernier, le dirigeant du Hamas, Ismaël Haniyeh, est assassiné à Téhéran. Pas de revendication, encore une fois.
Et puis vient le 27 septembre et l'assassinat du tout-puissant chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah.
Oui, Victor, là c'est Téhéran qui riposte beaucoup plus violemment qu'en avril. 1er octobre, 200 missiles balistiques envoyés par surprise sur Israël. Israël a donc riposté à cette attaque cette nuit, cible choisie militaire, pas de civils tués. On est encore loin d'une guerre de haute intensité.
Merci Théo Renaudon. Au Liban, les bombardements israéliens et malgré les frappes sur l'Iran n'ont pas cessé cette nuit. Ils se poursuivent ce matin, notamment au sud du pays. De son côté, le Hezbollah a revendiqué hier 48 attaques contre Israël, le plus grand nombre mené depuis le début de la guerre, le 8 octobre 2023. Celle-ci inclut des attaques contre des positions israéliennes, mais aussi contre des forces israéliennes ayant pénétré le Liban sud. Hôpitaux assiégés, villages et maisons détruites, près de 800 morts et des milliers de blessés. Le nord de Gaza vit ses heures les plus sombres. Ce sont les mots de Volker Turk, le haut-commissaire des droits de l'homme de l'ONU, vendredi. Après plus d'un an de guerre entre l'armée israélienne et le mouvement islamiste palestinien, il explique que les atrocités criminelles d'Israël pourraient vider le nord de Gaza de toute sa population. Yelena Tomic.
La situation dans le nord de Gaza s'aggrave de jour en jour, de façon inimaginable, s'alarme le haut responsable de l'ONU.
Aujourd'hui, le nord de Gaza vit ses heures les plus sombres du conflit. Au moment même où nous parlons, l'armée israélienne soumet toute une population au bombardement, au siège et à la famine, et la force à choisir entre un déplacement massif ou rester piégée dans une zone de conflit actif.
Volker Türk lance un avertissement en direction d'Israël.
L'armée israélienne a ordonné à des centaines de milliers de personnes de se déplacer sans aucune garantie de retour. Nous sommes confrontés à ce qui pourrait s'apparenter à des atrocités criminels, incluant de possibles crimes contre l'humanité.
Le haut commissaire s'en est également pris au groupe armé palestinien qui agissent à partir de camps et d'autres lieux accueillant des civils, les mettant en danger, ce qui est selon lui totalement inacceptable. Son message s'adresse enfin aux dirigeants du monde.
Je vous implore de faire passer la protection des civils et des droits de l'homme en premier et de ne pas abandonner ce minimum d'humanité.
Selon l'ONU, depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, plus de 150 000 Palestiniens ont été tués, blessés ou sont portés disparus à Gaza.
Yelena Tomic, et nous reparlerons de la situation dans le nord de l'enclave palestinienne juste après ce journal avec Jean-François Corti, président de Médecins du Monde, invité d'RFI midi dans un peu plus de 5 minutes. Jour de vote en Géorgie. Depuis 8 heures ce matin, les électeurs sont appelés aux urnes pour renouveler leur parlement. 150 députés remettent leur siège en jeu. Un scrutin crucial pour l'avenir européen de ce pays du Caucase. D'un côté, la population déclare à 80% vouloir adhérer à l'Union européenne. De l'autre, le parti au pouvoir rêve géorgien de l'oligarque Bidzidina Ivanishvili, qui s'est rapproché de la Russie particulièrement depuis 6 mois, et le vote de 2 lois controversées. Une première sur l'ingérence étrangère et une seconde interdisant la propagande LGBT. Reportage à Tbilissi, Robin Dussène.
C'est accueilli par une meute de journalistes du monde entier que la présidente Salomé Zourabichvili a fait son devoir de citoyenne à 8 heures tapantes dans cette école publique du centre-ville.
Je suis convaincue que cette journée déterminera l'avenir de la Géorgie, l'avenir pour lequel je suis personnellement revenue dans ce pays il y a 22 ans, l'avenir pour lequel toute la Géorgie prie.
À l'intérieur, les assesseurs enchaînent vérification d'identité et émargement des votants. Les électeurs, comme Christine, 29 ans, se succèdent, conscients de l'importance que revêt leur vote aujourd'hui.
Je pense que c'est la responsabilité de chaque citoyen de voter et de faire entendre sa voix, surtout lors de cette élection. C'est un enjeu crucial pour l'évolution du paysage politique, afin de déterminer la direction que nous prendrons ensemble.
Pour de nombreux citoyens, ce scrutin est aussi une chance de tourner définitivement la page du rêve géorgien, au pouvoir depuis 12 ans, et qui a récemment pris un tournant pro-russe, une motivation supplémentaire pour Tamila.
Je suis très heureuse car cette journée va acter la fin de ce gouvernement. Ça me réjouit qu'il y ait du progrès et de la liberté en Géorgie, dans ma Géorgie bien-aimée.
En Géorgie, les bureaux de vote ferment à 20h. Les premières tendances sont attendues dans la soirée. Tbilissi, Robin Dussène, RFI.
La note de la France à nouveau placée sous perspective négative par une agence de notation. Après Fitch, c'est Moody's qui ouvre la porte à une baisse de la note, notamment à cause de la mauvaise gestion des comptes publics. Et c'est dans ce contexte que l'examen du budget a repris ce samedi matin dans l'hémicycle de l'Assemblée pour la 6e journée consécutive. Un examen qui voit la copie du gouvernement chaque jour un peu plus dénaturée. Victorien Villaume.
Une entreprise de démolition. Voilà comment un député de la droite républicaine qualifie l'examen du budget 2025. Il faut dire que les revers s'enchaînent pour le gouvernement. Augmenter la taxation sur l'électricité, c'est non. Surtaxer de façon temporaire des très grandes entreprises, idem. Et même quand le gouvernement obtient une victoire, elle est à nuancer. Ce matin, les députés ont ainsi approuvé une contribution sur les entreprises de fret maritime, contribution souhaitée par le gouvernement, mais que les députés ont rendue pérenne. Un détricotage du fait des oppositions, gauche et extrême droite en tête, mais aussi, de façon plus étonnante, parfois des bancs du socle commun. Face à cette situation et aux très nombreux amendements qu'il reste à examiner, plus de 1500 d'ici ce soir minuit, le gouvernement, comme le craint l'opposition, pourrait être tenté d'abréger purement et simplement les discussions en activant le 49-3.
Victorien Villaume, c'est la fin de ce journal, mais RFI Midi continue à 14h10 ici à Paris.
RFI Midi, Victor Moria.
Avec tout de suite le journal des sports, un week-end de derby et de classico. Ce soir, Real Madrid-Barcelone, Lille-Lens, en attendant Marseille-Paris-Saint-Germain dimanche. Après cela, nous serons, comme promis, avec Jean-François Corti, président de Médecins du Monde, invité d'RFI Midi. Nous reviendrons avec lui sur la situation particulièrement difficile des populations du nord de Gaza. Et puis, le reportage international nous emmènera au Mexique, où les revenus de certains villages dépendent principalement de l'immigration légale vers les États-Unis. Une immigration temporaire qui permet de travailler dans les champs à des tarifs bien plus élevés qu'au Mexique. Bonjour Victor Misistrano.
Bonjour Victor, bonjour à tous.
Et le football à la une, week-end chargé sur les pelouses européennes, soir de Classico à Madrid.
Et le match que tout le monde attend en Espagne et même dans le monde, le Real reçoit le FC Barcelone, les Catalans leaders de la Liga avec 3 points d'avance. En cas de succès au Bernabéu, ils prendraient leur distance au classement. Eux qui arrivent en confiance, ils viennent d'infliger une correction au Bayern Munich en Ligue des Champions. C'était mercredi, 4 buts à 1. Le Real reste sur une remontada dont il a le secret face à Dortmund. Kylian Mbappé a découvert cette atmosphère si particulière. Nouveau baptême du feu ce soir pour son tout premier classico. Grande première aussi pour Hansi Flick, l'entraîneur allemand du Barça.
This is why we give everything.
C'est pour ce genre de rendez-vous que l'on se prépare. Nous nous devons de remporter ce classico. C'est notre devoir. Et tout joueur, dès le bas âge, veut disputer un classico. Mais celui-ci, c'est le vrai. En Allemagne, nous avons des matchs que nous baptisons classico. Ils n'ont toutefois pas la même saveur qu'un duel entre le Barça et le Real Madrid. Tous les joueurs ont le sourire. Ils se doivent d'en profiter. Pour cela, il faut travailler dur en amont. Et c'est ce que nous allons faire.
L'heure de mettre le travail en application ce soir, Real Madrid-Barcelone, coup d'envoi de ce classico à 19h temps universel.
Et un classique en chasse un autre, au MPSG, ce sera demain soir en point d'orgue de la 9e journée du championnat de France.
Et en attendant Victor, il y a de quoi se mettre en appétit dès ce soir avec une spécialité du Nord, le derby. Le Racing Club de Lens, 5e, reçoit Lille, 4e, des Lillois qui viennent de battre coup sur coup le Real Madrid, puis l'Atlético en Ligue des Champions. Après la victoire 3 buts à 1 au Metropolitano de Madrid, le moral est au beau fixe pour Benjamin André et ses coéquipiers. Le milieu de terrain et capitaine du LOSC sait que c'est un défi encore plus gros, en tout cas tout aussi gros, qui attend son équipe au Stade Bollaert.
Disons que quand on gagne, ça amène une certaine confiance, ça amène une certaine atmosphère. C'est sûr que voilà, dans le vestiaire, ça rigole, c'est bien, c'est détendu, mais en même temps concentré, on a l'envie de venir, on a l'envie de travailler. Et donc, d'autant plus quand on gagne dans des grands matchs comme ça. Après, on sait que ce sera un tout autre match, une toute autre atmosphère et que ce sera très très compliqué aussi là-bas. Donc, il faut évidemment garder tout ce qu'il y a de positif, cette énergie positive, mais aussi se reconcentrer et se refocaliser, je dirais, sur le championnat et sur ce gros match.
Gros match en perspective, Lens-Lille à 19h temps universel.
Et ce week-end, c'est décidément un menu bien copieux en Angleterre. Choc demain entre Arsenal 3e et le leader, Liverpool.
En attendant, c'est Manchester City qui peut provisoirement prendre la tête. Les Sky Blues reçoivent Southampton dans un peu plus d'une heure et demie. Et puis en Italie, encore un grand rendez-vous à venir demain entre l'Inter Milan 2e et la Juventus 3e. C'est Naples qui tient les commandes de la Serie A. Le Napoli accueille Lecce dans 45 minutes.
Merci Victor Misistrano du service des sports de RFI.
RFI. Le Monde à midi.
Bonjour Jean-François Corti.
Bonjour.
Vous êtes président de Médecins du Monde, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Merci d'être avec nous ce samedi 26 octobre. On l'a entendu un peu plus tôt dans le journal, Volker Türk, le haut-commissaire des droits de l'homme de l'ONU, dénonçait hier les heures les plus sombres vécues par la population du nord de Gaza. Depuis 3 semaines et le début du siège de cette zone, où Israël dit encercler les combattants du Hamas, près de 800 personnes ont été tuées et les conditions sanitaires sont décrites comme inhumaines par les témoins. Pas de nourriture, pas d'eau, pas d'équipe de secouristes, pas d'ambulance, pas de personnel médical. Est-ce que c'est un constat que vous partagez ?
Ah ben, la situation, elle est plus que désespérée. Si effectivement il y a un siège quasi total depuis début octobre, il y a quand même un siège qui depuis un an s'applique sur l'ensemble de la bande de Gaza, y compris sur le nord. Et on peut dire aujourd'hui qu'il y a un siège dans le siège où effectivement on estime qu'il y a entre 200 000 et 400 000 personnes qui, potentiellement, aujourd'hui, après plusieurs mois de privation, sont sans eau, sans nourriture et dans un défaut d'accès aux soins quasi total, avec 3 hôpitaux qui ne sont plus approvisionnés ces derniers temps. Donc oui, la situation, elle est désespérée et je pense qu'il faut mettre des mots sur ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire l'accélération d'une forme d'anéantissement qui a démarré il y a plus d'un an et qui s'accélère aujourd'hui dans un mutisme assez ahurissant de la communauté internationale, puisque ce jeudi, par exemple, il y avait une conférence sur le sort des Libanais, et c'est tout à fait légitime, mais à de très rares moments, il a été question d'un plausible génocide en cours à Gaza, et je reprends les termes de la Cour internationale de justice qui dit qu'il y a un risque plausible de génocide à Gaza en cours.
Et vous parliez justement dans une tribune chez nos confrères du Monde il y a un mois seulement de stratégie d'asphyxie. Est-ce que c'est cette stratégie d'asphyxie telle que vous l'appelez qui pourrait caractériser le crime de génocide ?
Écoutez, on va laisser la Cour internationale de justice caractériser les faits en cours. Ce que l'on voit, c'est que depuis un an, il y a eu près de 80% de destruction de structures essentielles, dont des hôpitaux, des centres de santé, des écoles, la possibilité d'avoir accès à de l'eau potable et à la nourriture. C'est plus de 300 humanitaires qui ont été tués. Et c'est encore des collègues d'Oxfam ou de Mercy Corps, qui sont des ONG, qui ont payé un lourd tribut ces derniers jours, y compris des collègues de Médecins Sans Frontières. Et puis, vous avez un siège qui empêche toute aide humanitaire de rentrer de manière proportionnée. Par exemple, Médecins du Monde, nous avons une centaine de Palestiniens qui travaillent à Deir al-Bala sur cette fameuse zone dite humanitaire, mais qui n'a d'humanitaire que le nom, hein, entre Al-Mawazi et Deir al-Bala, au centre et un peu au sud de Gaza, où près d'un million et demi de personnes sont concentrées dans des conditions d'insalubrité maximale et qui sont en tension en permanence pour accéder à l'eau et à la nourriture. On fait énormément de consultations de santé primaire avec les moyens qu'on a. On fait aussi beaucoup de prise en charge de malnutrition, et cette malnutrition, elle est liée à un défaut de nourriture, de soins, du fait d'un blocus qui est, et d'un siège qui est assumé. Donc oui, on est dans une configuration aujourd'hui où la faim, où la destruction du bâti, où l'insuffisance de soins fait partie d'une stratégie de guerre totale qui est en tension, qui est en rupture, je dirais même, avec le droit international humanitaire.
Et pour revenir sur ce qui se passe actuellement au nord de la bande de Gaza, à Jabalia, à Beit Laya, est-ce que vous avez des équipes sur place ou des contacts? Qu'est-ce qu'ils vous remontent comme information?
Nous, on a essentiellement des équipes sur Deir al-Bala, où je vous évoquais une situation déjà difficile. Mais sur le nord, ce que l'on sait, c'est que les collègues soignants du système de santé en place ou d'autres ONG ne reçoivent plus d'approvisionnement en matériel de première nécessité, que ce soit des médicaments antalgiques ou autres antibiotiques, que l'électricité et l'eau potable manquent, et donc que même la pratique d'une médecine, on va dire, de guerre, de tri, de base, aujourd'hui est quasiment impossible. Et puis vous avez des personnes qui se font sniper, tirer dessus, même à proximité des hôpitaux, et il est difficile d'aller même les chercher dans la rue à quelques mètres parce que vous risquez de mourir. Et puis, l'eau, la nourriture est extrêmement difficile à obtenir. Donc vous avez une situation de privation maximale où non seulement les mortalités que vous avez rappelées, plusieurs centaines de morts ces derniers jours, sont liées au bombardement, mais ils ne comptabilisent pas toutes les autres mortalités, et elles sont nombreuses, liées au défaut de soins, liées au défaut de nourriture, et qui ne rentrent pas dans la comptabilité aujourd'hui. Donc vous avez une situation qui est absolument désespérée et qui, encore une fois, relève d'une forme d'anéantissement accéléré, assumé, qui est absolument inqualifiable.
Et c'est justement ce qui se passe à l'hôpital Kamel Adwan de Beit Laya, où des témoins rapportent des tirs directement sur l'hôpital, des centaines d'arrestations au sein donc de l'hôpital et des patients privés de soins. L'OMS dit avoir perdu contact avec les médecins sur place. Bon, c'est une question un peu convenue, mais je pense qu'il est important de vous l'entendre dire. Quelles sont les conséquences pour un hôpital et ses patients dans ces conditions ?
Eh bien, déjà, le fait de ne pas avoir d'antibiotiques, d'antalgiques et autres, ça va induire ce qu'on connaît déjà depuis un an, c'est-à-dire des situations de prise en charge de patients qui devront être, par exemple, amputés ou opérés, et ça va se faire sans anesthésiant et sans antalgique. Donc vous pouvez imaginer les tableaux de prise en charge d'une médecine de guerre de très très bas niveau, avec des souffrances absolues. Ça va être le risque notamment pour des couveuses ou pour du matériel, on va dire, d'urgence. Je pense aux respirateurs artificiels, je pense à tout ce qui relève de transfusion et autres matériels, on va dire, qui nécessitent l'électricité. Tout ce matériel ne va pas pouvoir fonctionner, donc ça veut dire que tout ce qui est réanimation ou bloc opératoire ne fonctionnera pas. Et puis, c'est tout ce qui relève voilà, la prise en charge, notamment de la malnutrition, de la réanimation pédiatrique, ça c'est quelque chose qui ne pourra plus se faire. Donc des soins de base, une impossibilité de faire une médecine même de bas niveau, et donc des mortalités qui vont être exponentielles si la situation ne change pas, si on n'inonde pas le territoire d'une aide massive, si on ne permet pas à la nourriture, à l'eau de rentrer, bref, si on ne crée pas les conditions d'un cessez-le-feu pour que cette tuerie cesse et que la vie des civils puisse prendre ses droits.
Et que dit le droit humanitaire international sur cette question précise du blocus des médicaments et de la perturbation du travail des médecins ?
Le droit international humanitaire, il est censé humaniser la guerre. Il y a des textes très précis, très clairs, qui rappellent qu'il faut dissocier ce qui relève des combattants des civils, qu'il ne faut pas bombarder des hôpitaux, des écoles, des centres de santé, qu'il faut permettre à une aide proportionnée de répondre aux besoins, y compris dans une configuration de siège ou de blocus. Et cette réalité, elle n'est pas observée depuis un an, où l'aide internationale et l'aide humanitaire, qui est pourtant massivement prépositionné, hein, que ce soit en Égypte ou en Israël, n'arrive pas à rentrer. Pour exemple, nous, Médecins du Monde, on a pu faire rentrer 4 camions en un an, alors que nous avons énormément de matériel prépositionné de l'autre côté de la frontière, mais parce qu'ils avaient été bloqués par des mesures administratives et bureaucratiques de l'armée israélienne notamment. On a pu fonctionner en permanence en tension avec des dons notamment de l'OMS ou des Nations Unies. Donc le droit international humanitaire, il est bafoué depuis plusieurs mois, y compris en Cisjordanie et aujourd'hui de plus en plus au Liban, parce qu'on a d'une certaine manière les mêmes méthodes utilisées de bombardement indiscriminé, de destruction de centres de santé, où des humanitaires, des journalistes et des civils payent un lourd tribut. Voilà, il faut rappeler en permanence que ce droit, aujourd'hui, il n'est pas du tout respecté. Et d'ailleurs, la Cour internationale de justice, en janvier 2024, en avril 2024, a rappelé que si l'on ne faisait pas rentrer de l'aide de manière massive, si l'on n'était pas dans cette possibilité de couvrir et d'inonder le territoire d'aide, alors on serait dans un risque plausible de génocide. Et ça, tous les jours, ce risque-là, il est accompagné d'arguments qui laisse penser qu'on y va ou qu'on y est. Donc on est encore sur une hypothèse, mais la Cour internationale de justice a mis en avant tout un tas de mécanismes pour prévenir le risque de génocide. Aujourd'hui, on n'a pas l'impression que cela est pris en compte.
Jean-François Corti, une question rapide pour terminer, puisqu'il nous reste un peu moins d'une minute. Vous parliez tout à l'heure des donations qui avaient été récoltées pour le Liban. En tant que président de Médecins du Monde, est-ce que vous rencontrez un enthousiasme, disons, inférieur pour les victimes de la bande de Gaza ?
Non, on a de l'argent, on a les moyens pour travailler à Gaza, on a des équipes, la logistique. Le seul problème, c'est qu'on n'arrive pas à rentrer. Donc la question, elle n'est pas en termes de générer de l'argent ou autre, elle est dans la capacité opérationnelle de développer des opérations. Donc l'enjeu, il n'est pas, je dirais, humanitaire en tant que tel, il est politique de mettre la pression sur les acteurs au conflit, et notamment le gouvernement israélien qui empêche toute aide proportionnée de rentrer.
Merci. Donc Jean-François Corti.
C'est une question politique, c'est pas humanitaire.
Merci beaucoup Jean-François Corti d'avoir été avec nous sur RFI 14h23. Je rappelle que vous êtes président de Médecins du Monde et chercheur associé à l'IRIS. Au Mexique, la diaspora est omniprésente et permet de soutenir des millions de familles. Il y a plus de 11 millions de Mexicains qui vivent aux États-Unis, partis pour fuir l'insécurité, mais aussi pour poursuivre le rêve américain. L'aisance économique du pays voisin profite également avec les remesas, ces sommes d'argent envoyées par les Mexicains depuis l'étranger à leurs familles. Cela représente plus de 60 millions de dollars en 2023. Dans l'état du Michoacán, situé à l'ouest du plateau central, le village de Comachuen s'est développé et continue de le faire en grande partie grâce à cet argent. Là-bas, les habitants ont mis en place un système bien rodé, une pratique annuelle de migration légale grâce à un permis agricole nommé H2. 300 000 Mexicains en profitent chaque année. C'est le reportage international de Gwendolina Duval.
À Comachuen, ce jour-là, il y a une fête patronale, en grande partie organisée par ceux qui ont migré aux États-Unis.
Normalement, ici, à Comachuen, il y a très peu d'emplois. Il n'y a pas de travail. La seule source de revenus que nous avons actuellement, elle est là-bas.
Dans le village, Porfirio Reyes coordonne le travail agricole. Comme lui, depuis 25 ans, plus de 300 hommes partent chaque saison dans une ferme de l'État de New York. Il s'agit d'une migration tout à fait légale, avec un visa d'employé, un travail intense de 5 à 9 mois, payé 17 dollars de l'heure.
Il y a de plus en plus de gens. Chaque mois et chaque année, ils sont plus nombreux. Moi, je voulais voir ma famille aller de l'avant, mais je ne savais pas comment faire. Donc j'ai décidé d'aller de l'autre côté pour leur offrir une vie meilleure. Et je crois que chaque jeune homme qui fait le choix d'aller là-bas, y va avec cette intention d'aider sa famille, ses enfants et ses parents.
La migration à Comachuen a commencé dans les années 90. Dans les rues, Roberto González montre les réalisations financées avec les dollars américains. Le village espère bientôt ouvrir une école.
Ils soutiennent une communauté de plus de 10 000 habitants. Les preuves de leur investissement se ressentent partout, dans les maisons, l'éducation ou encore dans la santé.
Ce chercheur a fait son doctorat sur ces travailleurs. Il est lui-même parti une fois.
Cela ne signifie pas pour autant que c'est simple. Eux paient le prix et ont des séquelles. À chaque saison, ils poussent et se forcent. Donc les travailleurs qui font ça depuis 10 ans ont des douleurs et des maladies. Mais ils ont des besoins, alors ils continuent de migrer. Et comme ils le disent eux-mêmes, on migre par nécessité, pas pour le plaisir.
Sur le pas de son petit commerce, José González présente l'accomplissement de son travail. Il est parti pour la première fois en 2010.
Ce n'était pas comme ça au début. On a commencé par mettre un revêtement au sol. On y va petit à petit, ça s'améliore. J'ai envie de faire d'ici une mini-épicerie. Pour ça, il faudrait que j'aille aux États-Unis encore une saison ou deux.
Sa fille, Lady, qui l'aide en boutique, s'apprête à devenir professeur.
Je vais terminer mes études, ça va être génial.
J'ai deux fils aussi. Mon rêve est qu'ils deviennent quelqu'un.
Gwendolina Duval, au retour du Michoacán, RFI.
Le reportage culture du jour consacré à la plus grande exposition jamais dédiée à l'Arte Povera qui se tient jusqu'au 20 janvier à Paris à la Bourse du Commerce. L'Arte Povera signifie l'art pauvre, est un mouvement artistique né en Italie qui met en avant les matériaux humbles. Isabelle Chenu.
L'Arte Povera a vu le jour dans l'Italie de l'après-guerre. C'est une réaction à un monde dévasté, une résistance à l'industrialisation effrénée et à l'avènement de la société de consommation dans un pays de tradition agricole. Le terme d'art pauvre a été inventé par un critique d'art en 1967 pour désigner un groupe d'artistes qui s'oppose à la domination de la scène artistique américaine et du pop art. Ils refusent la production de masse qui déshumanise et exprime leur créativité avec des matériaux de peu, charbon, végétaux, café, toiles de jute, graines, pierres, verres. À la Bourse du Commerce à Paris, François Pinault montre 50 œuvres de sa collection, les autres sont issues de prêts. Une multitude de découvertes comme les petits chaussons tricotés en fil de cuivre de Marisa Mers, 5 colonnes monumentales réalisées à partir de piles de napperons à pâtisserie, œuvres d'Alighiero Boetti, des productions transgressives qui ont fait entrer le feu dans les musées avec Yanis Kounelis ou la glace avec Pier Paolo Calzolari, le maître des structures givrantes. 5 artistes sont toujours là pour témoigner de cette génération rebelle dont le doyen Michelangelo Pistoletto, 91 ans.
C'est aussi un désir de faire que l'art ne soit pas seulement esthétique, mais soit éthique. Communiquer quelque chose que la société peut prendre à exemple. C'est quelque chose qui est né comme une nécessité. Être dans l'art pauvre signifie être ouvert, être différent. L'écologie est fondamentale dans notre époque. Et l'art pauvre, je pense que c'est vraiment l'esprit de base.
Caroline Christophe Bakariev est la commissaire de l'exposition Arte Povera.
Nous sommes dans une époque où on a une révolution technologique avec le digital, une sorte de cassure entre le cerveau et le monde. Et on est affolé, il y a une sorte de mélancolie. Et vous allez voir dans le monde de l'art, dans les prochaines années, ce sera Arte Povera partout, mais une nouvelle Arte Povera qu'on ne peut pas imaginer maintenant.
Giuseppe Pennone, 77 ans, le plus jeune des artistes de l'Arte Povera, présente l'arbre de 4 mètres créé en 1969, sorte de colonne vertébrale de son œuvre à venir. Tous témoignent d'une conscience sociale et écologique. L'énergie qu'il dégage est revigorante pour le visiteur.
Appelez-nous, exprimez-vous. Chantal Leroux.
Le Ballon d'Or 2024 sera décerné ce lundi soir à Paris. 30 nominés, un élu. Qui sera sacré meilleur footballeur du monde et succédera à Lionel Messi? L'ailier du Real Madrid, le Brésilien Vinicius Junior, part grand favori. Quels sont vos pronostics?
33 9 693 693 70.
Juan Gomez avec vous au téléphone. Lundi, à partir de 8h10.